France Culture.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Ce midi, nous recevons un homme qui œuvre depuis 40 ans à améliorer notre alimentation en partant d'un credo simple. Ce que nous mangeons est meilleur s'il est bien produit, s'il provient d'un sol bon. Ingénieur agronome, titulaire de la chaire Aliments et bien manger à l'université de Rennes 1, il a fondé en 2000 l'association Bleu Blanc Cœur qu'il a présidée jusqu'en 2024. Et il raconte dans un livre cette histoire de chaîne alimentaire dédiée à la production agricole, à l'environnement et à notre santé, qui rassemble paysans, médecins, scientifiques, chefs et consommateurs. Alors, à l'heure où les maladies se multiplient, à l'heure où l'obésité devient une véritable préoccupation de santé publique, il n'est pas inintéressant d'entendre ce défenseur d'une autre manière de cultiver nos sols qui vante les vertus du lin et des oméga 3. Bonjour Pierre Vieille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre livre s'intitule « Une seule santé, enquête sur les sols où nos maladies prennent racine ». Il est édité chez Actes Sud. Une seule santé parce que, on pourrait le dire autrement, c'est une santé globale ou même une vision globale de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce concept de « one health », une seule santé ?
Alors on peut tout y mettre, hein. Je vais essayer de le préciser. Une seule santé, il y a à peu près un siècle, il y a un prof de médecine américain qui s'appelle Winslow, qui parle de ce qui définit la santé publique comme l'art de prévenir les maladies, et pas de les guérir, mais de les prévenir. Et il parle déjà de santé environnementale, d'éducation, d'activité physique, etc. Et la santé unique, alors il y a eu une histoire, on a commencé à parler de One Health au moment des premières maladies type vache folle, etc., où il y avait des maladies qui passaient de l'animal à l'homme. C'était une histoire de vétérinaire et de médecin. Et puis après, il y a eu le Covid, et puis on a parlé d'environnement, de pression environnementale. Et puis finalement, les organismes des Nations Unies pour la santé, l'agriculture, l'environnement se sont mis d'accord sur une définition qui veut tout et rien dire, qui dit la santé des écosystèmes, des animaux et des hommes est indissociable, sont indissociables.
Mais cette idée précisément que la santé humaine commence dans nos sols ou que... ce que la vache mange et a mangé, nous le mangerons ensuite. C'est pas une évidence, Pierre Veil?
C'est une évidence, mais il fallait le démontrer, parce que ça peut être très large. Évidemment, quand vous achetez du miel, on vous dit si c'est du miel de lavande ou du miel d'acacia, etc. On sait que la qualité du miel dépend de ce qu'a mangé l'abeille. Dans les Alpes, tout le monde connaît la qualité du fromage d'été, comme ils disent, du Beaufort d'été par rapport au Beaufort d'hiver. C'est les mêmes vaches, mais c'est pas le même lait, parce qu'elles ont pas mangé la même chose. Après, mesurer ça, et puis mesurer un impact sur la santé de l'homme. C'est vrai que moi, depuis 30 ans qu'on travaille là-dessus et qu'on publie des choses, on me dit, mais c'est évident. Mais c'est pas si évident que ça. Et là où l'évidence devient une certitude, c'est quand on passe à la mesure, quand on mesure des résultats. Et c'est ce qu'on a fait depuis ces quelques décennies en arrière.
Oui, en partant de l'hypothèse que nos pathologies modernes, chroniques, alors surpoids, carence, inflammation, diabète, obésité, je le citais, trouvaient leur origine au bas de la chaîne alimentaire, dans nos champs abîmés et chez nos animaux mal nourris. C'est à partir de là que vous avez commencé à travailler.
Tout à l'heure, on disait que c'était une évidence qu'il y avait un lien entre la santé des écosystèmes, des animaux et la nôtre. C'est pas si évident que ça quand on parle de nutrition. La nutrition, c'est pas l'alimentation, mais tous les conseils diététiques, on va dire, jusqu'à une époque très récente, encore aujourd'hui, c'est manger plus de ci, manger plus de ça. Mais ça s'attache pas à la façon dont les ci et les ça sont produits. Et Bleu Blanc Cœur a ramené quelque chose avec une première étude clinique. On avait été les premiers et les seuls à faire ça. C'était en 99. On a fait manger à deux groupes de volontaires la même chose. Ils mangeaient autant d'œufs, de viande, de lait, etc. Mais le lait, les œufs, les viandes étaient produits par des animaux qui étaient les mêmes animaux, mais ils mangeaient pas la même chose. Et on a regardé l'impact, on a mesuré dans le sang des volontaires l'impact de ce que mangeaient les animaux sur des paramètres de santé chez l'homme. Et là, ça devient une évidence, parce que ça devient une mesure, parce qu'au bout de 30 jours, on change la composition du sang. Les gens mangent la même chose. Alors, il faut combiner les deux. Bien sûr, les conseils diététiques restent d'actualité. Manger plus de fruits et légumes, etc. Mais jamais vous voyez des conseils de faire attention à la façon dont les aliments sont produits. Et donc, on a amené ça. On a fait d'une évidence une
mesure scientifique.
Une mesure scientifique.
En quelque sorte. Et puis, il y en a eu d'autres. Hein. En 2006, par exemple, nouvelle étude sur le lien entre l'alimentation des vaches. Vous aimez beaucoup les vaches. Les vaches nous aident à bien faire des bonnes mesures. Donc, l'alimentation des vaches et le diabète humain.
Oui, alors c'était pourquoi j'aime beaucoup les vaches, c'est vrai, je le cache pas, mais il y a toute une histoire derrière, mais c'est assez fabuleux la composition du lait, il y a plein, c'est un peu comme nous, je parlerai tout à l'heure d'une étude sur le lait maternel, il n'y a pas de bons aliments pour l'homme, sauf le lait maternel, qui est l'aliment des premières semaines de la vie, et le lait de vache, c'est aussi un aliment assez extraordinaire en composition, et sa composition change complètement en fonction de ce que mange la vache. Et du coup, mesurer l'impact de ces changements de composition sur, on l'avait fait dans une population de diabétiques où on a eu un impact au bout de 90 jours sur l'insulinorésistance, qui est un élément clé du diabète, du moteur du diabète, la résistance à l'insuline. Il y avait des impacts positifs de ce que mangeaient les vaches, d'une bonne alimentation des vaches sur les paramètres du diabète, sur l'insulinorésistance dans cette population de diabétiques. Donc on a commencé avec des volontaires sains, puis après on s'est intéressé aux volontaires diabétiques, et puis après je raconterai la suite.
Mais alors cette bonne alimentation des vaches, elle est composée de quoi ?
La meilleure alimentation des vaches, là aussi c'est une évidence, c'est l'herbe de printemps. Une vache, tout à l'heure je parlais du Beaufort d'hiver et du Beaufort d'été. Vous imaginez des jours qui sont longs, le soleil qui brille, c'est un peu une carte postale. Et puis en dessous, au niveau du sol, il y a de l'herbe. Et l'herbe, elle est pleine de chloroplastes parce qu'elle capte l'énergie du soleil. Et ces chloroplastes, toute l'énergie sur Terre vient de là. Hein, c'est la synthèse chlorophyllienne. Et elle se fait dans ces petits organites qu'on appelle chloroplastes et qui sont bourrés d'oméga-3. Parce que les oméga 3, c'est des molécules assez vibratiles comme ça, et on a besoin, enfin l'herbe en a besoin pour capter l'énergie du soleil. Et comme il y a de l'énergie du soleil, comme l'herbe elle se développe, une partie de cette énergie elle est donnée sous le sol à tous les champignons qui savent pas faire la synthèse chlorophyllienne, à tout un tas d'organismes qui sont en dessous du sol et qui ramènent tout un tas de nutriments via les racines à la plante. La plante se nourrit via le soleil et via ce qu'il y a en dessous de la terre. Et quand la vache mange ça, et ben tous ces bons nutriments, elle les met dans le lait. Et elle en fait un lait de première qualité. Alors l'hiver, les jours sont courts, il y a moins de synthèse chlorophyllienne, il n'y a plus d'herbe, mais les gens continuent à manger, ils mangent même plus de beurre et de fromage l'hiver que l'été. Donc on continue à nourrir les vaches, on les nourrit différemment. Et là, c'est plus l'idéal. Donc il faut, mais ça a été le travail des éleveurs depuis des millénaires, de faire en sorte que l'alimentation soit aussi bonne que possible quand il n'y a plus l'herbe abondante du printemps sous le soleil du mois de mai.
Mais si je vous suis bien, Pierre Veil, on a donc besoin d'oméga 3. On en manque, on n'en a pas assez.
Alors il y a eu un prix Nobel sur la synthèse des prostaglandines, les oméga 6, les oméga 3 en 1982. Et moi, à ce moment-là, je démarrais et j'essayais de regarder, dans les années 90, on va dire, je faisais des analyses d'herbes et de lait pour comprendre pourquoi justement le lait était différent l'hiver et l'été. Et je me rends compte que ce que je viens de raconter, là, qu'il y a 60-70% d'oméga 3 dans l'herbe grasse, dans le gras de l'herbe, il y a beaucoup d'huile dans l'herbe, et qu'il n'y a pas du tout la même chose dans le maïs. Dans le maïs, c'est des oméga 6, mais c'est pas des oméga 3. Et du coup, dans le soja, c'est pareil. Et du coup, l'hypothèse de l'époque, alors il y avait pas, moi j'avais pas accès à Internet, j'allais à la bibliothèque universitaire, et je commence à lire des papiers où on dit que une carence ou un déficit au moins en oméga 3 dans la population française qui s'est installée dans les années 80-90, que ça crée des problèmes de santé publique, qu'il faudrait en manger deux fois plus. Il y a encore des rapports récents de l'ANSES qui disent qu'on consomme à peine la moitié de nos besoins, que 98% des Français en consomment pas. Alors c'est pas un truc miracle, hein, mais c'est comme si on était tous carencés en vitamine C. À partir du moment où on se remet à en manger, c'est formidable. Et alors ça intéresse l'industrie pharmaceutique, ça intéresse les gens des compléments alimentaires. Et moi, à l'époque, avec quelques collègues, on pose l'hypothèse que peut-être que quand on passe les vaches, mais aussi les autres animaux, de l'herbe au maïs, eh ben on crée cette carence, parce que c'est ces gras animaux qui constituent l'essentiel de ce que mangent les gens en acides gras.
D'où l'intérêt de revenir à quelques cultures de graines qu'on dit oubliées. le lupin, la luzerne, la févrole ou encore le lin plutôt que le soja. Le lin est fort en oméga 3. Nous avons au téléphone un cultivateur, éleveur aussi de volailles, cultivateur de graines oubliées, paysan de la ferme du parc dans la Sarthe. Il est le Louis de votre livre, Pierre Veil, vous le connaissez depuis longtemps. Dominique Levrard, bonjour.
Bonjour.
Donc vous cultivez du lin, de la févrole, du lupin. Quel intérêt de ces graines dites oubliées, aussi bien pour les sols que pour les animaux que vous cultivez et à terme, nos ventres. Quel intérêt du lin ? Prenons le lin.
Le bon sens. Au début de mon installation, de notre installation avec mon frère à la ferme du parc, on avait perdu le sens de notre métier et on était même persuadé qu'on allait arrêter notre métier parce qu'on n'avait pas ni de reconnaissance ni de, enfin, manquer de diversité ou manquer de plaisir de faire notre métier. La première réponse, et c'est celle-là que je vais apporter en fait. Et le bon sens nous a ramené en disant allez, on aimerait avoir de la reconnaissance des produits que l'on fait, des volailles, du bœuf que l'on fait. Et comment se faire de la production végétale, comme le disait Pierre tout à l'heure, on avait besoin de bon sens, un peu de retrouver du sens. Et quand on s'est mis à travailler avec Pierre, on s'est posé un petit peu ces questions-là, mais de façon un petit peu empirique. C'était plus un besoin, j'allais presque dire intellectuel un petit peu. Et le bon sens nous a ramené les pieds sur terre, parce que dès qu'on a commencé avec Pierre ensemble là à faire de la mesure, ça a redonné du sens, du plaisir à mon métier. À notre métier. Et on s'est rendu compte, en fait, que la course au prix, qui était censée nous apporter de la richesse à la société, à des vacances, des téléphones portables et compagnie, ça nous apportait de la pauvreté dans la diversité de nos aliments, nutriments.
Donc,
quand vous mangez du pigeon, du cochon, du lapin, vous ne mangez pas varié parce que tout le monde semble avoir oublié que la chaîne alimentaire existait et qu'un pigeon n'est pas égal à un pigeon. La volaille de la ferme du parc n'est pas la volaille de la ferme du parc. Ça a du lien avec la terre. Et puis ensuite, une fois qu'on a commencé ça, on se rend compte que quand on fait des importations de protéines qui nous viennent de l'autre bout du monde et qu'on en a deux matières premières, trois matières premières et qu'on nourrit tous les animaux, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc on s'est remis à faire du lin, du lupin, de la févrole, et parce qu'on voulait retrouver, et de l'arbre de printemps, parce que pour les bovins, et y compris pour les pintades, les poulets, les chapons, les dindes, ça consomme de l'herbe, comme disait Pierre tout à l'heure, mais l'herbe, on la trouve pas toute l'année. On la trouve que dans l'herbe de printemps, avec sa richesse, on la trouve qu'au printemps. Mais les poulets, les pintades, vous en demandez maintenant toute l'année, alors qu'à l'époque, on les élevait au printemps. Voilà, donc tout ça nous amène à refaire des cultures qu'on avait oubliées, parce que ce que l'on peut stocker, ce sont les graines et non pas l'herbe de printemps.
Mais juste,
que j'ai été...
juste Dominique Levrard, dites-nous un mot des vertus du lin. Le lin, pourquoi le lin ? Qu'est-ce qui apporte le lin ?
Eh ben, c'était l'herbe de printemps stockée dans une graine. Quand on a commencé à se poser la question de savoir ce qu'il y avait, ce que l'herbe de printemps nous avait apporté pour remarquer que le beurre, quand il était issu de l'herbe de printemps, des vaches qui broutaient l'herbe de printemps parce que c'était un jaune très très foncé pour le beurre, très tartinable. On s'est rendu compte que c'était les oméga 3 qu'il y avait dans l'herbe de printemps et après on s'est posé la question de savoir pour pouvoir nourrir la population toute l'année avec un beurre jaune riche en oméga 3. On a cherché tout simplement une manière de stocker les oméga 3 et comme les plantes ont inventé des graines pour stocker les graines, on est naturellement tombé vers le lin. Puis ensuite, on a travaillé les variétés de lin qui avaient. On a sélectionné les variétés de lin qui avaient cette particularité-là.
Merci Dominique Levrard de la ferme du parc dans la Sarthe. Collaborateur depuis très longtemps à l'association Bleu Blanc Cœur de Pierre Veil. Pierre Veil, vous avez mené 6 études empiriques en 25 ans qui ont toutes conclu au bienfait des oméga 3 et donc des graines de lin dans l'alimentation. Bleu Blanc Cœur, c'est une association, c'est un label qui arrive aujourd'hui en 3e position de notoriété derrière le label rouge et le bio. Et puis c'est une démarche qui vise à faire mieux comprendre cette chaîne alimentaire qui va, on le dit maintenant comme ça, du sol à l'assiette.
Alors je dis un mot de Bleu Blanc Cœur. Oui. Essayer d'être court. Ben écoutez, c'est une histoire qui a démarré après la première étude clinique dont je parlais tout à l'heure. Et on a eu cette étude, on avait les résultats, on les a publiés, on était dans des congrès scientifiques. Et je me suis dit, c'est pas, faut faire autre chose. Enfin, il y a un enjeu énorme en matière de santé, mais aussi d'environnement, parce qu'on montrait ce lien entre la santé des gens et puis la façon de produire avec des bénéfices environnementaux. Donc j'ai été proposer ça à des marques, à des interprofessions. Tout le monde m'a envoyé balader en disant non, c'est bien comme ça. Il y a les signes officiels de qualité supérieure et il y a le tout venant d'un autre côté. Entre les deux, il n'y a pas de place. On m'a parlé de la théorie du sablier où il n'y avait pas de place pour l'accessibilité. Et puis avec le médecin Bernard Schmitt qui était l'investigateur de la première étude clinique et le professeur L de mon bouquin là, qui est un scientifique de l'INRA. On avait envie quand même de faire quelque chose, mais on avait, je dis 0 francs, 0 centimes, parce qu'il n'y avait pas l'euro à l'époque. Et on a créé une association qu'on a appelée Bleu Blanc Cœur, peut-être le temps de vous dire pourquoi. Et puis on a développé ça avec des collèges de tous les gens qui sont concernés par la chaîne alimentaire. Donc il y avait dès le départ des paysans, bien sûr, des éleveurs, des industriels, des médecins, des scientifiques, des distributeurs.
Et tous des distributeurs, Pierre Veil ?
Des distributeurs. Au début, il y en avait deux, qui étaient Monoprix et Carrefour, c'était les deux premiers. Puis il y en a eu d'autres qui sont arrivés après. Il y en a qui ont mis ça vraiment comme on le voulait dans l'offre.
Qui vendent des produits labellisés Bleu Blanc Cœur.
Oui, et puis qui les pas au rayon hyper cher quoi, dans leur cœur de gamme. Et ça, c'est une réussite. Et du coup, on touche vraiment beaucoup de gens et c'est formidable.
Oui, et aujourd'hui, Bleu Blanc Cœur, c'est 7000 paysans et donc 30000 consommateurs reconnus par le ministère de la Santé, mais aussi celui de l'agriculture comme une démarche d'intérêt général. Et c'est aussi, Pierre Veil, une démarche d'actualité. Le 4 mars dernier était la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Écoutez.
C'est une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet qui dresse ce constat alarmant. Près des 3/4 des adultes et plus d'un tiers des enfants sont désormais en surpoids ou obèses ici aux États-Unis. Le taux d'obésité a doublé depuis 1990 chez les adultes américains et dans un peu plus de 20 ans, près de 260 millions de personnes devraient souffrir de surpoids ou d'obésité en Amérique. La population aujourd'hui aux États-Unis, c'est 330 millions. Donc les chiffres sont terribles et The Lancet n'hésite pas à parler d'épidémie d'obésité, avec toutes les complications de santé qui sont liées à un IMC, à un indice de masse corporelle élevé, diabète, cancer, problèmes cardiaques, respiratoires et troubles de santé mentale, sans oublier évidemment les coûts considérables. La dernière fourchette dont on dispose date de 2016 pour les États-Unis et on chiffre les coûts de santé seulement liés à l'obésité entre 261 et 481 milliards de dollars.
Voilà, Pierre Veil, est-ce que Bleu Blanc Cœur, son modèle, sa démarche peut apparaître comme une des solutions, c'est-à-dire travailler les sols pour mieux prévenir ce type d'épidémie qui, non pas nous guette, mais on est dedans, hein.
Ça mérite un petit développement parce que ce développement de l'obésité, ça peut aussi aiguiser les appétits des futures pilules anti-obésité. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Mais on soignera pas un problème comme ça. Et c'est vrai aussi pour les autres maladies qu'on appelle à composante inflammatoire ou inflammatoire à bas grade ou à composante nutritionnelle. Il faut quand même faire un peu de prévention. Et la prévention, elle commence, ça mérite une toute petite explication si vous m'y autorisez.
Toute petite,
hein, j'essaye quand même. Le tissu adipeux, le tissu où on stocke notre gras, celui qui va développer l'obésité, soit dans le ventre, soit dans les fesses, soit sous la peau, c'est un tissu qui a des cellules qui meurent jamais. Parce que dans notre physiologie d'homme des cavernes, on a terriblement besoin de stocker de l'énergie, de l'énergie sous forme de gras. Et le développement de ce tissu adipeux, il est sous la dépendance des oméga 6 dont on parlait tout à l'heure. Et on a fait des études, pas des études empiriques comme vous disiez, mais des études cliniques avec des volontaires obèses. On en avait fait avant avec des souris sur des modèles, etc. Et on se rend compte que quand les gens mangent un régime riche en oméga 6, ils prennent du poids et ils le perdent pas. Quand ils mangent un régime le même mais riche en oméga 3, et ils prennent autant de poids mais ils le perdent rapidement quand il y a des régimes un peu quand ils mangent trop. En gros, quand on mange trop d'énergie, on la stocke. Mais ce tissu adipeux qui stocke l'énergie, il se développe pas quand il y a beaucoup d'oméga 3 dans la ration, alors qu'il se développe très bien quand il y a beaucoup d'oméga 6. Et ça se passe dans les champs. Et quand Dominique parlait tout à l'heure des champs, un champ de lin, un champ de lupin, un champ de colza, c'est des oméga 3. Quand on cultive du maïs, quand on importe du soja, c'est des oméga 6. Et donc la prévention, là, elle commence vraiment dans les champs. Alors ça n'empêche pas qu'il faut manger un peu moins que ses besoins, ou pas plus que ses besoins en tout cas, qu'il faut se dépenser un peu. Mais ça fait partie de la solution. C'est-à-dire dans la boîte à outils des solutions, forcément, il y a l'agriculture et il y a l'alimentation.
Le Salon de l'agriculture 2025 a fermé ses portes le 2 mars. Vous y étiez, Pierre Veil, avec votre association Bleu Blanc Cœur. Que pèse aujourd'hui Bleu Blanc Cœur dans la filière agricole?
Alors ça pèse dans le monde, en gros, les signes de qualité, les labels, c'est à peu près 10% de la production agricole française. Et dans ces 10%, ça en pèse à peu près le quart, on va dire. Donc c'est pas rien, mais c'est pas grand-chose. Par contre, ce qu'il y a de formidable dans le Salon de l'agriculture, c'est une cure de jouvence pour nous. Parce qu'on a un espace qui est toujours plein de gens qui ont la banane, qui ont le sourire. Et moi, j'adore y aller, je suis en retraite maintenant, mais j'y vais toujours. J'espère qu'ils me laisseront y aller longtemps. Parce que tu serres la main à un paysan, puis après tu parles à un médecin, puis à un scientifique, et puis t'as un consommateur. Et tous ces gens-là, ils participent à la solution. Je parlais du puzzle de la solution. Le puzzle de la solution, c'est ça aussi, c'est que tout le monde se prenne en main. Et il faut que les producteurs produisent mieux, mais il faut que les consommateurs, les mangeurs plutôt, comprennent l'intérêt. J'aime pas le mot consommateur.
Vous préférez mangeur?
Ouais, parce qu'on incorpore tout ça. On incorpore la vie des sols, la vie des plantes, la vie des animaux, le bien-être des éleveurs et des agriculteurs, etc. Et que, si tout le monde c'est un peu naïf de dire ça, mais à notre échelle, on y arrive bien. Si tout le monde se donne la main, si on se comprend, on peut changer les choses et on les changera. Et le Salon de l'agriculture, à petite échelle, on a ce microcosme de gens qui s'aiment et qui travaillent ensemble à cette agriculture à vocation santé qu'on appelle de nos voeux, et c'est formidable.
Du côté des mangeurs, donc plutôt que des consommateurs, Pierre Veil, si l'enjeu de la santé est plus important pour les moins riches d'entre nous, ils n'ont souvent pas accès à la qualité. Est-ce que cette question de l'accessibilité est importante pour l'association que vous représentez, Bleu Blanc Cœur? Est-ce que c'est un projet qui parle à une élite informée et éduquée sur le plan alimentaire?
Non, faites bien de poser la question, c'est fondamental. On a besoin, moi maintenant je suis plus dans Bleu Blanc Cœur tous les jours, mais je suis toujours dans une petite asso qui s'appelle...
Vous avez passé la main en 2024.
Ouais, mais je continue à militer, on va dire, avec des copains pour faire Bio Blanc Cœur. C'est-à-dire que c'est les gens qui font à la fois du bio et du Bleu Blanc Cœur. Parce que c'est le point de fuite au sens architectural, là où les parallèles se rejoignent. On va peut-être pas y arriver tout de suite, mais on montre que, voilà, ça c'est l'idéal. Le côté plus nutritionnel de Bleu Blanc Cœur et le côté plus toxico, on va dire, du bio ensemble. Mais évidemment, ça coûte cher, c'est élitiste, mais il faut s'occuper de tout le monde. Donc il faut faire des pas, petit à petit, de cette logique de petits pas. Alors c'est pas facile, hein, on prend des coups à droite, on prend des coups à gauche, parce qu'il y a un statu quo où tu fais bien à manger ou mieux à manger pour des gens qui mangent déjà très bien. Wow, c'est pas un objectif de vie fantastique. Il faut s'occuper de tout le monde. Moi, je côtoie des gens qui sont pas très riches, les épiceries sociales, des trucs comme ça. Les futurs diabétiques, les futurs obèses, ils sont là. Hein. Il faut absolument s'occuper d'eux. Il faut pas s'occuper que des gens qui ont à la fois l'argent et la culture pour choisir très très bien leurs aliments. Et c'est pour ça que les gens qui mettent Bleu Blanc Cœur en cœur de gamme, je leur en suis reconnaissant parce que c'est ce qu'il faut.
C'est le cas d'un certain nombre de chefs qui travaillent avec vos produits, Pierre Veil. Par exemple, Nicolas Brunelière, qui est chef des cuisines au siège de la Banque de France, qui fait donc dans la restauration collective, c'est 1500 couverts par jour. Nicolas Brunelière, que nous avons en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dites-nous en quoi vous avez été convaincu par les produits Bleu Blanc Cœur.
Eh bien, tout d'abord, les produits Bleu Blanc Cœur, au-delà d'un label, hein, c'est véritablement un produit. On fait pas de bonne cuisine sans un bon produit. Il y a une histoire à raconter derrière tout ça. Et l'engagement qu'on peut avoir à travers le label Bleu Blanc Cœur, c'est d'avoir et de retrouver un produit qui, tout au long de la chaîne, de la fourche à la fourchette, comme on aime bien dire, arrive à avoir une certaine valeur qu'on partage dans la cuisine pour mettre au mieux et sublimer au mieux les produits à destination des consommateurs et de nos clients. Et pour cela, Bleu Blanc Cœur remplit déjà donc une grande partie de ses valeurs. Nous, dans la restauration collective, on est déjà assujetti à la loi Egalim qui nous impose évidemment 50% de produits alors et ou bio labellisés et en circuit court. Quand j'achète du Bleu Blanc Cœur, je sais déjà que je rentre dans un des trois critères pour remplir cette loi. Et en même temps, je remplis ce qui est le plus important à mes yeux, c'est les valeurs de cuisine. Un bon produit à travailler naturellement et tout en respectant l'environnement, la santé animale et la souveraineté alimentaire.
Alors des valeurs, des contraintes données par la loi Egalim, est-ce que vous pensez au goût aussi, Nicolas Brenelière, de ce que vous servez? Est-ce que les produits d'animaux bien nourris font la différence en termes de tendreté, en termes de saveur par exemple?
Ah oui, il y a une vraie différence. Quand on parle de sélection de produits, c'est vrai que on a la chance de participer. J'entendais vous parliez du salon de l'agriculture, mais quand on fait ces rencontres-là sur le salon de l'agriculture, à la fois sur les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, qui donnent un sens aussi à leur âme de travailleurs, hein. Et on se reconnaît dans le produit parce que il a une sensibilité, ce produit, en fin de compte, parce qu'il a une histoire, il a un savoir-faire et donc un terroir. Et c'est ça de quoi est riche la France, c'est de terroir et de ses savoir-faire et qui sont aujourd'hui préservés par et mis en avant par Bleu Blanc-Cœur et son label.
Merci Nicolas Brenelière. Belle illustration, Pierre Veil, de l'accessibilité au plus grand nombre d'une alimentation de qualité, par exemple, et que vous prenez. Mais pour terminer, bien évidemment, ils sont encore plus nombreux, ceux et celles qui nous écoutent. On a envie de vous demander comment on fait son marché. Où est-ce qu'on trouve les produits Bleu Blanc-Cœur, par exemple? Et puis, vous parlez beaucoup du lait, des œufs, des tomates, notamment, dans votre ouvrage. On achète quoi? Et l'huile aussi, tiens.
Tous ces produits-là existent. Alors des fois, faut les dénicher. Il y a une adresse qui est assez simple, c'est les Super U, parce que l'essentiel.
On fait pas de promotion pour une enseigne.
Voilà, excusez-moi. Enfin, il y en a. Non mais ça va. On va dire que ça va.
Il y en a sur votre site déjà.
Il y en a sur notre site. Il y en a sur le site Bleu Blanc-Cœur, on retrouve ça. Mais ça va du produit fermier à côté de chez soi. Moi, quand je vais sur le marché de ma commune le samedi, je vois des fois encore l'autre jour le boucher charcutier Bleu Blanc-Cœur qui me dit, il y a encore le médecin qui m'a envoyé un gars qui va dire, en lui disant, si tu veux manger des rillettes, faut que tu achètes des Bleu Blanc-Cœur. Ça, c'est sur le marché, il y en a chez les distributeurs. Mais si je peux rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, j'aurais quand même dire, et c'est vrai pour les tomates, c'est vrai pour le lait, c'est vrai pour tout, la nutrition, c'est pas l'alimentation. L'alimentation, j'ai écouté parler des produits avec du cœur, on se nourrit pas de nutriments. On se nourrit de beaucoup plus que ça. On se nourrit de tous les liens qu'il a évoqués au terroir, etc. Et l'histoire des tomates, j'ai le temps de la raconter?
Très rapidement, tout le
temps. Très rapidement. On a comparé des tomates produites sous serre, soit en hors-sol, enfin, comme la majorité des tomates, sur de la laine de roche, soit sur du sol vivant. Et au début, on a comparé la valeur nutritionnelle de ces tomates, toutes choses égales par ailleurs. Et au début, on était déçus parce que les tomates en hors-sol avaient autant de vitamines et autant de lycopène que les autres. Et puis avec les chimistes de l'université, on a regardé de façon un peu plus fine et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de petits pics, de molécules qui venaient de la vie du sol, qu'on retrouvait dans les tomates en sol vivant et qui ont des capacités antioxydantes qui sont intéressantes pour la santé de l'homme, mais qui montrent aussi cette chaîne alimentaire et qui montrent que l'alimentation, c'est plus que la nutrition. C'est pas seulement le lycopène qu'on peut mettre dans des petits tuyaux pour nourrir les tomates sur laine de roche. C'est beaucoup plus que ça. C'est tous ces éléments qu'on mesure dans le sol et qui arrive dans les tomates, dans les graines qui vont faire les huiles, dans les laits, etc.
Donc attention, de toute façon les tomates c'est trop tôt pour en acheter, c'est pas la saison encore. Et attention aux tomates qu'on achète, attention aux œufs qu'on achète, zéro FR, ça c'est important, et attention au lait et à la viande à chaque fois qu'on achète. Non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est bon aussi au goût si on les choisit bien. Merci beaucoup à vous, Pierre Veil. Et puis l'importance aussi, vous nous l'avez rappelé, de la science à l'heure où la science est attaquée un peu partout. Les mesures scientifiques que vous menez montrent à quel point c'est important de les défendre. À bon entendeur, salut. Merci. Votre ouvrage, Une seule santé, enquête sur les sols où nos maladies prennent racine, est édité chez Actes Sud. Et je vous offre le livre de Karine Jacquemart de la fondation Foodwatch qui s'intitule Les dangers de notre alimentation, dérives et conséquences du système agroalimentaire sur notre vie, publié chez Payot et qui doit sûrement vous intéresser. Cher Pierre Veil, merci beaucoup aussi à la petite équipe des bonnes choses. Toutes les informations, les adresses, les références sont bien sûr à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture avec François Saint-Jean à la prise de son, avec Taïsia Froidure à la réalisation et avec Siam Boutata à la documentation.